Forum Opéra, émission spéciale.
Nous partons aujourd'hui à la découverte d'une œuvre que peu connaissent, et pour cause, il s'agirait du seul oratorio ou action sacrée, composé par un jeune Mozart de 15 ans, encore sur les routes d'Europe avec son père. Christophe Rousset, à la tête de son ensemble Les Talents Lyriques, nous offre un nouvel enregistrement paru chez Aparté de Betulia Liberata. On se retrouve avec Christophe Rousset grâce à la magie d'Internet chez lui. Enfin, j'imagine qu'on est chez lui, mais ce n'est pas du tout une certitude. Bonjour Christophe Rousset.
Non, on n'est pas chez moi. Je suis à Bilbao en ce moment pour une production d'opéra.
Ah oui, donc loin de chez vous, effectivement. Et qu'est-ce que vous dirigez à Bilbao ?
C'est un Turco in Italia de Rossini.
Et est-ce que vous avez du soleil au moins en Espagne ?
Il y en avait hier, mais aujourd'hui c'est la pluie.
Temps pluvieux et morose ici aussi et partout en Europe aujourd'hui, j'ai l'impression. Après ce bulletin météo, je reviens sur Mozart et particulièrement le jeune Mozart qui semble avoir une importance particulière pour vous et les talents lyriques.
En tout cas, c'est un compositeur important pour tout le monde, je pense. C'est une figure qui est mythique, qui évoque toujours beaucoup de tendresse, je pense, chez les mélomanes. Et d'autant plus quand on touche le tout jeune Mozart. Donc effectivement, avec les talents lyriques, on avait fait un disque qui avait pas mal marqué, qui était le Mithridate, avec Nathalie Dessé, Cecilia Bartoli, Juan Diego Flores.
La totale.
Enfin bon, c'était un très très beau cast et on s'était fait plaisir, il faut quand même le dire. Et c'était un enregistrement qui manquait un petit peu, c'est-à-dire un Mozart de jeunesse sur instrument ancien, ce n'était pas encore tout à fait dans les mœurs. Et donc ça marquait un petit peu son temps et on s'est dit comme ça qu'on avait envie de remettre le couvert avec une autre œuvre qui n'est pas trop connue, qui est peut-être un petit peu méprisée du public ou des mélomanes parce qu'ils ne connaissent pas tout simplement Betulia Liberata, qui est un oratorio, une action sacrée, comme on l'appelle. Et voilà, ça m'a semblé intéressant de réunir de très très beaux chanteurs, même s'ils ne sont pas super connus. Ce sont tous, en tout cas, des gens qui ont une voix absolument extraordinaire. Et il faut ça, parce que le jeune Mozart, ça demande toujours des voix c'est toujours très athlétique, en fait.
On l'entend effectivement dans ce premier air de bravoure, une belle entrée en matière qui suit cette ouverture elle-même déjà très tempétueuse, dans le style Sturm und Drang presque déjà. C'est une œuvre assez mystérieuse qui n'a jamais été donnée, qui n'a jamais été créée à Padoue pour laquelle elle avait été commandée.
Oui, c'est sûr, c'est une pièce relativement obscure, on ne sait pas trop ce qui s'est passé autour de la création de cette œuvre-là. En tout cas, quand on parle d'oratorio, on a effectivement, pour reprendre votre lapsus, souvent l'idée de Handel ou de Haydn qui font des grandes œuvres chorales dans les oratorios. Ce n'est pas le cas de cette œuvre-là qui, certes, fait appel à un chœur, mais de façon extrêmement sporadique et de façon peu développée sous forme d'homophonie. Donc, on n'est pas du tout dans une œuvre chorale comme on peut la trouver chez Haydn ou chez Handel, qui développent vraiment et donc qui font que ces oratorios sont restés dans un répertoire qui… Souvenez-vous que les oratorios sont souvent donnés en concert grâce au chœur, en fait. Ce sont les chœurs qui mettent à leur programme des oratorios et celui-là n'est pas assez intéressant pour les chœurs, tout simplement parce qu'ils ont très, très, très peu à chanter.
Et d'ailleurs, lui-même n'appelle pas son œuvre un oratorio, mais bien une action sacrée. Alors, est-ce que c'est un style particulier, l'action sacrée ? Est-ce que c'était le seul à l'époque à s'intéresser à ce style ? Est-ce que c'était un style en soi, l'action sacrée ? Ou est-ce que c'est juste une forme d'oratorio avec un nom différent ?
Non, sûrement pas le seul, puisque cette œuvre-là, je veux dire, le livret de Métastase préexiste, il a été mis en musique d'innombrables fois. Vraiment, des gens comme Yomelli l'ont mis en musique, et puis d'autres compositeurs qui sont beaucoup moins connus, comme Gassman et autres. Mais c'est un livret qui a donné lieu à beaucoup de mises en musique. Donc les actions sacrées, c'est un petit peu ce qu'on faisait en Italie dans le style oratorio. Alors que l'oratorio en Angleterre, évidemment, est une toute autre histoire.
Vous parliez justement de Métastase, grand librettiste et poète de l'époque. Pour Betulia Liberata, il écrit un livret assez déroutant quand on connaît l'histoire de la Judith, des scènes de violence et des têtes coupées. On est aussi très loin d'une Judita Triomphans de Vivaldi. Métastase, il semble là écrire un livret beaucoup plus rhétorique.
En tout cas, c'est très particulier dans la mesure où l'action même n'est pas montrée pendant l'action, elle est juste racontée lors d'un immense récitatif accompagné de la part de Judith. Et le reste, c'est essentiellement les Juifs qui se consultent pour savoir quoi faire, en fait. On est tout le temps dans cette espèce d'incertitude, et puis qu'est-ce qu'on va faire, et puis une fois que c'est fait, on fête tout ça, mais toujours dans beaucoup de palabres. Mmh. et c'est pas l'action qui est importante. Ça s'appelle azione teatrale, azione sacra, mais c'est vraiment quelque
une
part.
Une discussion.
Oui, c'est essentiellement des discussions. Et là, le début du deuxième acte est alors totalement sur une espèce de glose sur l'unicité du Dieu. Et donc, il y a un païen et il y a un juif qui parle et qui débat de la nécessité et de l'opportunité du monothéisme.
Oui, donc on est sur une forme particulière. Alors, comment on aborde un livret comme celui de Betulia Liberata ? Est-ce qu'on l'aborde comme un opéra ? Est-ce qu'on l'aborde comme vous avez pu aborder Mithridate ?
Oui, de la même façon que Mithridate, c'est-à-dire en la pensant essentiellement par ce qui vient avant. Je pense que souvent, quand on fait du jeune Mozart, on est spécialiste de Mozart et on a dirigé du Beethoven et autres, et on est tout le temps en train de se dire « ouais, c'est quand même pas le plus grand Mozart », et puis « ouais, du point de vue orchestral, c'est peut-être un petit peu moyen », etc. Moi, je ne viens pas de ça, comme vous le savez, je viens plutôt de ce qui précède. Et je me suis passionné pour l'école napolitaine, pour Ionelli, pour Traetta, pour Leonardo Leo, et en fait toute cette école qui a inspiré Mozart et qui a fait que le jeune Mozart était ce qu'il était. Alors évidemment, le jeune Mozart est un prodige dans la mesure où quand vous pensez vous à ce que vous avez fait à 15 ans et qu'on voit un jeune Mozart de 15 ans qui écrit une partition comme celle-là, on est juste sans voix, on se dit que c'est un être exceptionnel, mais ça ne vient pas de rien. C'est une pièce qui est totalement plongée dans son époque. Peut-être la chose qui a pu surprendre et donner énormément de succès à Mozart à Milan quand il a créé Mithridate et plus tard Lucio Silla, c'est le fait que Mozart était une éponge et qu'il certes se laisser influencer par les Italiens, mais aussi par l'école allemande. Et vous parliez de Sturm und Drang tout à l'heure, le Sturm und Drang précède Mozart, c'est pas Mozart qui l'invente, ce sont les fils de Bach, essentiellement, Carl Philipp, Friedemann, et puis ce sont des gens comme Georg Benda, qui est un tchèque, mais qui était installé à Berlin, et dont la musique était imprimée, que Mozart connaissait et estimait énormément. Et donc, il se laisse imprégner aussi par cette école allemande, qui fait qu'il y a dans les œuvres de Mozart, y compris dans ses œuvres de jeunesse, une espèce de synthèse déjà. Il est passé par la France, alors ça ne s'entend pas beaucoup dans ces opéras-là, ça s'entendrait un petit peu plus dans Idomené et dans les Da Ponte, mais il y a des influences multiples, et c'est ça qui est très très étonnant et qui fait que Mozart est différent, résolument différent d'un compositeur italien de l'époque.
Et à 15 ans, il est encore à Salzbourg, alors est-ce qu'il n'est pas aussi très imprégné par le style germanique, bien que ce soit très ouvert à l'époque ?
Parce que Salzbourg, c'est beaucoup l'Italie aussi, enfin je veux dire, on n'est pas loin, et donc il y a ces influences qui sont très très nettes. Mais en tout cas, c'est sûr que Mozart est un grand voyageur. C'est quelqu'un qui, quand vous lisez ses lettres, est toujours intéressé par la musique des autres. Il fait copier beaucoup de musique, il la copie lui-même. Il est toujours dans l'estime des autres, y compris dans des compositeurs qui aujourd'hui nous semblent complètement périphériques. Et il a, par exemple, de l'estime pour Hülle Mandel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Hülle Mandel, mais Personne s'intéresse vraiment à Gulmendel aujourd'hui, alors que Mozart l'estimait, par exemple. Donc, il était capable de regarder beaucoup autour de lui et de faire feu de tout bois, en fait.
Oui, alors je parlais de l'école germanique parce que en écoutant, enfin en découvrant Betulia Liberata, j'ai pas pu m'empêcher à certains moments de penser à l'Orphée Eurydice de Gluck, qui lui-même utilise les chœurs d'une façon assez extérieure à l'action, des chœurs qui commentent l'action, mais qui n'y participent pas réellement.
Oui, Gluck, c'est une bonne référence. En tout cas, c'est sûr que ce sont des références au chœur grec, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont des chœurs qui commentent l'action. Ce ne sont pas des chœurs d'action, effectivement. Et là encore, on est très, très différent de Haendel. Haendel, que Mozart connaissait d'ailleurs, qu'il a réhabillé à certaines reprises, mais qu'il. Il utilise là clairement un chœur plus à la grecque, c'est-à-dire qu'il commente l'action, qui est en regard avec ce que les protagonistes racontent. Voilà, c'est particulier, assez homophonique, comme je le disais tout à l'heure, mais il y a une petite chose aussi qui convient de voir, c'est le choral à la fin. À la fin, à la toute fin, le chœur chante un choral. Et ça, c'est une chose assez inattendu parce que Mozart vient d'un pays totalement catholique, d'une culture catholique, et que le choral est vraiment une chose luthérienne qui vient de beaucoup plus au nord. Néanmoins, il fait cette espèce d'hommage à la musique allemande et sans doute à Jean-Sébastien Bach. Et donc, il y a cette, encore une fois, une pluralité et une utilisation du chœur qui est relativement étonnante, oui, on peut le dire, mais malheureusement peu développée.
Alors Mozart à 15 ans composait Betulia Liberata et vous, Christophe Rousset, qu'est-ce que vous faisiez à 15 ans?
Pas grand-chose, je veux dire, je travaillais le clavecin, je faisais mes cours en classe, j'avais quitté Aix-en-Provence et j'étais monté à Paris, c'est exactement cette époque-là, et donc je commençais à avoir des étoiles dans les yeux quand j'allais au concert à Paris, parce que c'était évidemment bien différent de ce qui se passait à Aix à l'époque.
J'imagine qu'à 15 ans, vous connaissiez déjà Mozart. Vers quel âge il est entré dans votre vie? Comment vous avez découvert ce compositeur?
Mozart, c'était très très vite en fait parce que avant même que je commence la musique, j'étais le seul à écouter les disques classiques chez moi, mais il y avait des disques classiques et il y avait du Mozart, il y avait des concertos pour piano que j'écoutais en boucle et qui m'ont beaucoup beaucoup inspiré. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai commencé le piano à l'époque, mais en tout cas, c'est sûr que Mozart, je l'ai connu vers 7-8 ans.
D'accord. Alors certains chefs passionnés par des compositeurs se lancent dans des intégrales. Est-ce que c'est un projet que vous pourriez avoir un jour, enregistrer tous les opéras de Mozart?
Non, non, je n'ai pas envie d'enregistrer tout Mozart. Mozart, d'abord, n'a pas besoin de moi. Je veux dire, une œuvre comme Betulia avait besoin de moi. Enfin, je peux. Disons que j'y avais la place pour le faire, et puis c'est une œuvre qui est vraiment trop rarement fréquentée. Et donc j'ai voulu y insuffler tout ce que je pouvais faire d'humanité, de vie, de drame, etc. Donc les récitatifs, j'ai essayé de les faire vivre au mieux parce qu'ils sont longs et souvent très développés. Et puis vraiment en faire, disons aller vraiment vers l'italianité. Ça, c'était une chose qui était très importante. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté pour avoir une Judith italienne, de façon à avoir vraiment cette sensibilité à la langue. Je pense que c'est fondamental. Après, les autres Mozart, évidemment, je suis ravi de les faire. Je veux dire, je vais faire un Cosi bientôt, faire un Don Giovanni bientôt. Évidemment, c'est une joie toujours extraordinaire. Et puis aussi de découvrir qu'il y a, comment dire, une stratification un peu de l'interprétation chez Mozart, en tout cas dans ses plus grands opéras. Malgré tout, il y a toujours quelque chose à trouver pour soi, à remettre sur l'ouvrage et à se dire, tiens, à questionner et à
Apporter.
trouver d'autres solutions. Mais de là à vouloir faire son intégrale Mozart, non, je pense que moi, je suis plutôt sur une intégrale Lully en ce moment et je pense que
Ouais.
Lully a davantage besoin.
Et j'imagine que ce qui est d'autant plus intéressant avec Betulia Liberata, qui est relativement peu enregistrée, c'est l'idée d'avoir une toile blanche devant et de pouvoir s'affranchir de toute norme d'interprétation, de pouvoir créer un nouveau Mozart à votre propre image.
Moi, j'aime beaucoup ça et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je fais beaucoup d'inédits. C'est-à-dire que pour moi, ce sont toujours des recréations mondiales. Je reprends un terme d'Armancourt, mais je pense que c'est fondamental, même quand on fait une symphonie de Beethoven, de refaire une création mondiale, c'est-à-dire d'en faire quelque chose de complètement excitant et de se dire que c'est la première fois qu'on l'entend. Et donc, c'est la première fois qu'on travaille cette partition, c'est la première fois voilà, on a un contact complètement renouvelé, frais avec une œuvre. Et c'est sûr que quand il n'y a pas de tradition et que les chanteurs qui viennent à vos répétitions n'ont pas écouté toutes les versions qui peuvent exister dans la discographie, ça aide énormément. Moi, j'aime beaucoup pour ça quand je sais pas, moi, j'ai fait les Noces de Figaro il y a peu de temps, et dans les Noces de Figaro, j'avais la chance d'avoir beaucoup de prises de rôle. C'était une merveille parce que quand vous trouvez les routards, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment avec le Rossini. Moi, j'ai rien à dire parce qu'ils savent mieux que moi ce qu'il faut qu'ils fassent. Enfin, je mets ça entre guillemets, évidemment.
Oui, bien
Mais
sûr.
du coup, ce n'est pas la peine d'intervenir parce que de toute façon, ils ne changeront pas leur idée des choses. Ils savent déjà par cœur ce qu'ils ont étudié. Et donc, il n'y a aucun moyen d'intervention dessus. Donc, on s'adapte. Il y a différentes façons de travailler à l'opéra. Mais c'est vrai que les prises de rôle, c'est merveilleux pour ça parce que c'est peut-être pas complètement une page blanche. Ils ont forcément déjà travaillé un air ou deux. Ils ont forcément écouter d'autres versions, mais néanmoins il y a beaucoup plus de ductilité. C'est ça que j'aime dans une œuvre inédite ou très très peu fréquentée comme Pétulia, c'est-à-dire que je peux vraiment donner une empreinte extrêmement forte parce que effectivement je suis très interventionniste, je laisse pas un chanteur faire ce qu'il veut, ça m'intéresse absolument pas. J'ai une idée, une conception d'une œuvre, je les laisse pas dans un récitatif faire ce qu'ils veulent, je leur demande des couleurs, je leur demande des intentions, je suis très très exigeant et très pénible en fait, hein. C'est ma réputation.
Alors pour vous, c'était pas tout à fait, en tout cas plus tout à fait une page blanche parce que vous l'aviez déjà donnée en concert. Est-ce que le passage du live à l'enregistrement vous a fait changer d'idée? Est-ce que vous avez modifié votre vision de l'œuvre entre le concert et l'enregistrement du disque?
Non, disons que l'idée, elle reste la même, et puis après, on est obligé de lâcher. Vous savez, quand on est chef d'orchestre, on a une conception des choses, et puis on lâche par petites bribes comme ça. On se dit, bon, bah, de toute façon, il n'y arrive pas, ou de toute façon, il y a cette idée dans sa tête, et j'arriverai pas à lui faire changer. Alors, on lâche comme ça un certain nombre de choses, mais au fond, la conception reste la même. Hein. Je pense pas avoir beaucoup évolué. Et ce qui est certain, c'est que le disque me permet de dire on s'arrête. C'est pas comme ça que je veux. Et donc, je peux resserrer un petit peu les vis, ce que je peux évidemment pas faire en concert, bien imaginé.
Ah, certains se sont déjà permis de le faire, pourquoi pas?
Oui, bonjour.
Alors, je vous pose un peu la même question. Si vous deviez refaire aujourd'hui Mithridate, est-ce que votre vision changerait? Est-ce que l'énergie serait la même? Je pense que l'énergie d'un moment est très importante.
C'est certain, mais ce qui est encore plus évident, et je vais faire de la pub. J'ai récemment donné un autre Stabat Mater de Pergolèse. Je l'avais déjà enregistré plusieurs années avant. Et en fait, ces œuvres-là, elles changent avec les chanteurs, tout simplement. Et il faut savoir que Mithridate, c'est une œuvre de chanteurs. Je veux dire, c'est essentiellement les chanteurs qui mènent la barque. Donc, si vous avez une Bartoli ou vous avez une Dessé, évidemment, ça sera quelque chose de très, très, très fort et de totalement ébouriffant et enthousiasmant. Et derrière, vous pouvez impulser plein de choses, mais malgré tout, ça reste les chanteuses qui sont les moteurs de l'œuvre. Et c'était déjà le cas à l'époque, c'est-à-dire quand vous regardez les ébauches de Mithridate, vous voyez que certains airs ont été refusés par les chanteurs, et y compris par le rôle-titre, qui a carrément introduit un air d'un autre opéra pour un air de bagage. Donc c'est dire que les chanteurs étaient tout puissants à l'époque, et d'ailleurs Mozart dans ses lettres en souffre, il en parle avec son père comme d'une chose absolument insupportable que d'être tyrannisé par des chanteurs, et ce n'est qu'à partir d'Idoménée qu'il arrive un peu plus à s'imposer comme compositeur auprès des chanteurs et qu'on ne changera pas une note de ce qu'il a écrit.
Oui, alors on dira même qu'il s'est vengé de cette période-là en écrivant des airs parfois même qui peuvent paraître inchantables, comme Handel ou d'autres. On sait qu'il composait pour des voix en particulier.
C'est sûr que ces airs à contre-sol et à contre-fa sont évidemment des airs qui ne sont envisageables que pour une personne qu'on a en tête, c'est évident. Moi, je ne veux pas me comparer à un compositeur, je ne suis pas compositeur, mais quand je conçois des ornements pour les chanteurs, je les conçois d'autant mieux que je connais le chanteur, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser leur vocalité pour imaginer une cadence ou un ornement. Donc, je pense que c'est ce que faisaient évidemment ces grands compositeurs de l'époque, Handel en premier, et puis quelqu'un comme Mozart, évidemment, quand il était encore tyrannisé, ou quand il avait envie de faire un hommage à Nancy Storace ou à Lozia Weber, effectivement. Ouais.
Alors, est-ce que vous avez encore une chose à nous faire découvrir sur cette fameuse Betulia Liberata de Mozart que maintenant tout le monde connaîtra?
Non, j'allais dire le quiz, c'est... Vous avez déjà entendu le choral de la fin de l'œuvre dans une œuvre de Mozart, laquelle?
Eh ben, on laissera les auditeurs répondre en dessous du podcast. Et qu'est-ce qui gagne? Alors, on leur enverra un disque, on leur enverra Betulia.
C'est à vous de décider. Hein,
voilà, exactement. Alors, on décidera ça par la suite. Et alors, est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des nouveaux enregistrements inédits? Est-ce que vous allez nous faire découvrir de nouvelles œuvres prochainement?
Salieri.
Et qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir chez Salieri? Parce que vous avez déjà enregistré des pièces méconnues de ce compositeur.
Oui, j'ai fait sortir les trois opéras français de Salieri. J'avais fait aussi dans le passé une œuvre, un dramma giocoso, qui était la Grotta di Trofonio, qui était une œuvre enthousiasmante. Et on vient d'enregistrer, là, juste à la sortie du confinement, Armida, qui est donc un opéra seria, qui est donc encore une veine totalement différente. Et qui est un pur chef-d'œuvre. Alors là, vraiment, on va vraiment très très loin. Et en 1770 ou peu après, Salieri va vraiment sur le 19e siècle. Il ouvre totalement vers le 19e. Donc c'est fascinant, c'est une œuvre extraordinaire. Et puis là aussi, on a des chanteurs absolument extraordinaires. Donc je suis très très excité. Je viens d'écouter le premier montage.
Ça s'apparente presque à une naissance, la première écoute d'un disque qu'on a enregistré.
Surtout qu'on n'avait pas pu le faire en concert à Beaune cet été avant de faire l'enregistrement. Donc du coup, c'était la première fois que j'entendais l'œuvre dans sa continuité. C'est vraiment une œuvre qui tient et qui devrait être faite régulièrement à la scène parce que c'est une œuvre sublime, un chef-d'œuvre.
Donc, une belle naissance. Et vous, alors, d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement?
Beaucoup de clavecin. J'ai joué du clavecin 4 heures par jour, sans m'arrêter. Moins pour travailler ou pour préparer des choses que pour m'absorber et m'abstraire de la folie, qui des informations et de la panique générale. Et puis aussi... Parce que quand on s'abstrait dans la beauté, ben on est sûr de gagner quelque chose. Alors que se rester dans le vide comme ça, parce que je pense que beaucoup étaient frappés de stupeur, en fait, de sidération
par cette époque-là. Et d'incompréhension sur le moment.
Voilà. C'était une façon d'échapper à la sidération que de se consoler par la beauté de la musique.
Eh bien, Christophe Rousset, merci beaucoup pour cette discussion autour de l'œuvre méconnue du jeune Mozart de 15 ans, Betulia Liberata, que vous pouvez découvrir en achetant le disque paru chez Aparté. À très bientôt.